la contamination et la radioactivité. Le césium 137 à nos frontières s'est arrêté. Se communiquer, ce mensonge-là, personne ne l'a gobé. En 20 ans, ni moi, ni personne, personne ne l'a gobé.
En liberté. Une émission pour déménager la biologie. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions, apparemment scientifiques, paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Vous connaissez la musique ? Eh bien, il arrive qu'en science, on sache aussi jouer de la flûte champêtre. En regardant la définition officielle, vous vous rappellerez que le pipeau est une flûte champêtre dont certains savent jouer avec délectation. Il en fut ainsi de William Summerlin, de Paul Kaminer ou même de Gregor Mendel. En fait, en examinant nombre de travaux, un petit groupe de scientifiques a même pu quantifier l'importance de la fraude qui peut atteindre des sommets. Certes, le mensonge flagrant, la fausse découverte ne sont pas des pratiques si fréquentes qu'elles constitueraient une trop grande part de la science normalisée. En revanche, les petits arrangements entre amis sont tout de même monnaie courante et bien des scientifiques préfèrent ne pas divulguer toutes leurs mauvaises manières. Cette petite délinquance qui triche avec le réel ne semble pas prêter à conséquence. Il s'agit le plus souvent de se servir la soupe entre camarades ou de régler discrètement quelques comptes à la manière de personnes qui oublieraient de rembourser quelques petites dettes amicales de poker. Mais voilà. Peut-on s'inscrire dans une démarche de recherche de la vérité si on admet ces quelques trifouillages ou ce népotisme pour accéder à des honneurs ? Cette question est si souvent occultée que d'autres termes sont parfois mis en avant en intégrant ses mauvaises actions, telles que oh, c'est un peu de dénigrement, des erreurs partielles, une absence de citation, un conflit d'intérêts, voire dans les cas les plus graves, un petit problème d'éthique. Il en va tout autrement de la grande fraude, celle qui trouble la démarche scientifique au point de susciter les foudres universitaires. Car il existe des méchants qui ne se contentent pas d'arranger leurs résultats et leurs conclusions, mais qui fraudent carrément. La grande fraude scientifique est ainsi donnée en pâture. Oui, mais si elle est révélée, elle prouve aussi que les scientifiques sont capables de la dénoncer. En quelque sorte, la manifestation de la fraude et des fraudeurs démontre contradictoirement la validité de la méthode scientifique. Les démarches impies sont rapidement découvertes et leurs auteurs châtiés de cette témérité. Cependant, il est parfois des fraudes qui arrangent un peu tout le monde, car elles attirent un consensus particulier, comme ce fut le cas contre Lysenko, non seulement tricheur, mais également suppôt du stalinisme et de ses purges. À remarquer que le consensus peut au contraire être favorable aux tricheurs, comme ce fut le cas pour Gregor Mendel ou encore pour Watson et Crick. Quant à notre petite délinquance, faite de menus arrangements et de beaucoup de couleuvres, elle passe inaperçue au milieu des conflits, des médisances et de toutes ces mesquineries qui sont le lot commun de nombre de relations humaines dans le monde marchand. Car si la fraude inspire les chercheurs au risque de leur carrière, c'est bien que les pressions qui s'exercent sur la science empêtrent la démarche scientifique sur le même mode que le mode marchand. Oui, car vous ne le savez peut-être pas, en science, tout se paye, tout se quantifie. Les revues valent des points, les recherches sont souvent intéressées, les publications scientifiques se font à la quantité, et un bon chercheur est un scientifique qui respecte ce consensus en se taisant. Bref, toutes les conditions sont réunies pour exercer ces petites tricheries avec le réel. Et cependant, bien des garde-fous sont posés, et les bifurcations de la méthode alertent bien souvent le monde scientifique. Nous allons nous intéresser à cette contradiction qui entraîne les chercheurs dans certains chemins sinueux, ou parfois loin des faits. L'interprétation est ce qui prime. Et comme cette histoire est délicieuse, vous verrez qu'elle se finit bien entre fraude et méchanceté diverses, car la science progresse à petits pas feutrés. Voilà. Vous êtes ici sur Radio Libertaire, alors nous allons enlever un peu du feutre. Et comme nous parlons du pipeau, je voudrais que le monde tourne, nous dit Cool Groove.
Dédicace à la terre, celle qui nous héberge depuis des millénaires. Je voudrais que le monde tourne avant que le vent tourne. J'aimerais que vous bougiez au lieu de regarder la télé. Ils m'ont remis à ma place toute ma vie, sans savoir, sans savoir qui je suis. Je dis qu'ils n'ont rien compris, toutes ces bandes d'abrutis, d'abrutis. Faut-il croire encore, encore et encore tous ces gens qui te vendent n'importe quoi. Quand j'étais petit, c'était déjà
Le monde est fou et on s'en fout. Les pauvres se meurent, les riches en graissent. Que fait-on de la richesse?
Bonjour à tous sur Internet et sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons parler de la fraude scientifique. Oui, oui. Et pour comprendre à quelles étapes on peut trouver la fraude en science, Thierry, tu peux nous rappeler en quoi consiste la méthode scientifique dans un premier temps ?
Eh bien, bonjour Siona. La méthode scientifique, alors tout le monde semble bien la connaître. En fait, la méthode est relativement simple. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle une phase de questionnement. Cette phase de questionnement repose sur un ensemble de lectures, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'état de l'art sur une question donnée, une question biologique. On travaille à ce moment-là toutes ces lectures, toutes les éléments dont on peut disposer, y compris les observations qui permettent de laisser entendre que ce qui a été découvert par les autres n'est pas complet, qu'il manque un petit quelque chose. Et à partir de là, on va mettre en œuvre une hypothèse qui sera attestée. Une fois que ça s'est fait, on a une phase de recherche pour répondre à cette question posée. Alors on va voir comment mettre en place, quelle méthode va être mise en place pour répondre à la question qu'on s'est posée. Et c'est seulement là qu'on passe à la phase de la validation, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'expérimentation, validation de l'ensemble de la réponse, à travers l'expérience. Évidemment, cela suppose une certaine interprétation des données, interprétation qui correspond plus ou moins à l'hypothèse et qui permet, à partir de cette expérience, d'avancer. Grosso modo, on a donc quatre phases. Une phase théorique. On utilise la théorie qui va permettre d'élaborer une hypothèse, hypothèse prédictive, c'est-à-dire qu'on va construire une expérience pour voir, elle doit aboutir à quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît. L'expérience est donc construite pour aboutir à cela, on effectue l'expérience et ensuite on rejette ou on accepte l'expérience. On va donc tirer la conclusion du travail qu'on a mis en place.
En fait, on parle aussi souvent d'observation de données dans cette démarche.
Oui, souvent, c'est assez confondu avec le reste de la démarche scientifique. On croit qu'un scientifique s'assoit au bord de l'eau, regarde les grenouilles chanter et qu'à partir
finalement,
de là,
il observe.
Voilà, il observe.
Ça lui alors, est donné quelque part.
C'est peut-être le cas de quelques mathématiciens qui ont tous leurs travaux dans la tête, mais en biologie, en tout cas, ce n'est pas du tout le cas. On ne peut pas observer les choses. L'observation est probablement la plus mauvaise des manières de faire. Une observation, ça se construit. Un fait scientifique, ça se construit. Par exemple, on peut observer tous les jours que le Soleil tourne autour de la Terre, alors que dans la réalité, scientifiquement, il ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Par conséquent, les faits, il faut avoir la théorie qui va permettre de vérifier si le fait fonctionne ou s'il ne fonctionne pas, et non pas l'observation. L'observation n'est produite que par une expérience qui va être complètement élaborée, travaillée, pour qu'on aboutisse, qu'on parte de l'hypothèse centrale et que cette hypothèse aboutisse à une déduction, enfin à un véritable travail expérimental qui va nous permettre de vérifier que cette hypothèse est bien la bonne.
Alors, est-ce que tu peux développer les travaux de recherche
produits,
en fait?
Alors, bien entendu. Alors, on peut observer, évidemment, comme en sociologie ou comme dans d'autres éléments, on peut observer ce qui se passe, mais à condition d'avoir au préalable déjà défini tout un ensemble de paramètres. C'est d'ailleurs souvent ces grandes théories scientifiques que nous nous interrogeons ici. Par exemple, quand on a parlé de la question de la domination, est-ce que ça existe vraiment? On voit très bien que là, il y a un a priori, un préjugé, celui sur la domination, celui sur les relations hiérarchiques, et à partir de cela, évidemment, les gens les découvrent, les trouvent, vont les mesurer. On peut même, à partir de là, tout mesurer. Le problème, c'est que la théorie, il va falloir la valider. Donc, si elle est valide, du coup, ben, on fait de la science. Si, par contre, on ne valide pas la théorie, mais qu'au contraire, ce qu'on apporte est toujours des petites nuances, eh bien, il faudra la remettre en cause. Il faut bien comprendre que le plus souvent, la théorie, elle est validée à travers une méthode. C'est-à-dire que c'est dans le cadre méthodologique, en fait, que la théorie va pouvoir ou non être validée.
Et en fait, il y a aussi la qualité des références qui compte.
Oui, tout à fait. À partir du moment où on a commencer à élaborer la théorie, on va évidemment travailler sur ce que les autres ont déjà produit. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les animaux ont fait ceci, ou que les espèces ont fait cela, enfin qu'il s'est passé tout un ensemble de choses, et qu'un auteur dit quelque chose qui nous semble à nous contradictoire avec ce qu'on a pu vérifier, ce qu'on a pu observer. Donc ça va poser problème. À chaque fois, la science fonctionne un peu comme un type qui marcherait, qui roulerait en vélo et qui se casserait la figure. C'est-à-dire que, en théorie, ça doit fonctionner, mais si on se casse la figure, c'est que quelque chose est intervenu.
C'est l'exception qui confirme la règle.
C'est l'exception qui justement fait que la règle semble pas bonne, que la théorie posée, que l'hypothèse posée peut être remise en cause. Et c'est à travers ces éléments-là, évidemment, qu'on va pouvoir travailler la question essentielle. D'où l'importance d'avoir une excellente bibliographie, la plus exhaustive possible. En général, on va lire 200, 400 titres sur un sujet donné. Il y a des sujets sur lesquels il y a plus de 200 000 titres à lire. On est parfois complètement submergé par le nombre de travaux. Et lorsque tous ces titres sont connus, lorsqu'on sait de quoi on parle, à partir de là, on peut effectivement commencer à poser nos hypothèses en vérifiant qu'elles sont bien nouvelles. Alors, il peut être tentant, on en reparlera, d'oublier que certains autres auteurs en ont déjà parlé, surtout s'ils l'ont parle d'une manière un petit peu subtile.
Et quelque part, finalement, c'est à ces différents stades que tu as pu répertorier qu'on retrouve des types de délinquance.
Alors en fait, à chacun des stades de la recherche, il peut évidemment y avoir une fraude, ou du moins une petite délinquance discrète. La fraude sur les résultats ou la modification des données pour obtenir une conclusion qu'on souhaite est évidemment un des phénomènes importants. Mais il faut aussi tenir compte de la petite délinquance scientifique, comme par exemple l'altération de résultats défavorables à une hypothèse. Moi, j'ai assisté dans les couloirs d'une université à la présence d'un jeune chercheur en doctorant qui disait « Oui, mais j'ai deux données là qui ne collent pas du tout avec ce qu'on a découvert jusqu'à présent. » Et le patron de thèse qui lui disait « Tu ne les comptes pas, ces deux données, point. »
Ça, oui, c'est
typiquement
très ambigu,
de la fraude, et elle est très très courante. On appelle ça de la fabrication de données, puisque du coup on enlève évidemment les points qui ne nous sont pas favorables. Cette fabrication de données ou falsification de données peut aussi aller parfois jusqu'au plagiat. On a eu des auteurs qui ont travaillé sur tel et tel sujet, on s'en rend compte un petit peu trop tard, et puis du coup on s'inspire tellement d'eux, il y en a un qui a travaillé, je sais pas moi, sur la queue du triton, et l'autre va travailler sur la queue d'un autre triton ou d'une autre salamandre. On va reprendre à peu près les mêmes choses, quitte même à utiliser parfois des données. Dans ces cas-là, ce plagiat conduit très souvent à la non-citation de travaux. C'est-à-dire qu'on va oublier des travaux qui ne sont pas favorables.
Comme par hasard.
Comme par hasard, ou des travaux qui sont pillés d'une manière assez ambiguë. Donc le plagiat va conduire à la non-citation. Alors la non-citation de travaux, c'est probablement la délinquance la plus courante qui soit. D'abord parce que c'est facile de l'excuser. Grosso modo, on va dire oui, mais tel auteur, il n'a pas finalement travaillé de manière si importante que ça. On n'a pas fait attention à lui. Ou alors il a publié dans une petite revue. Sachant que Gregor Mendel avait à peine publié dans une revue tchèque, on peut se demander ce qu'on fait si on fait que ça. On peut aussi dire, évidemment, oui, mais la revue ne nous demande qu'une quarantaine de références, donc on va oublier certaines. Et de la même manière qu'à la non-citation de travaux, il y a parfois l'addition de travaux absolument inutiles. On va citer des copains ou on va citer des individus à qui on va donner la soupe en espérant que, grâce à cette citation, ils vont être favorables à la publication scientifique.
On les achète, alors, quelque part.
En quelque sorte. Il y a la soustraction ou l'addition d'auteurs. Par exemple, on a travaillé en France sur un sujet donné, mettons le Vision d'Europe, mais on veut à tout prix que le texte passe, donc on va dire à un Anglais, tiens, est-ce que tu ne veux pas t'associer au texte pour réfléchir avec nous sur le sujet ? Donc si on met son nom en premier ou en dernier, évidemment, on donnera l'impression que c'est un véritable travail international. On peut aussi favoriser certains passages de texte, certains éléments qu'on ne dit pas au départ et puis qu'on place à la toute dernière seconde dans le texte pour afficher une conclusion qui n'avait pas été prévue. Et puis, il y a bien entendu les publications avec des milliers et des milliers d'auteurs. Hein, ça arrive, il y a des publications qui, des fois, dépassent 200, 300 auteurs.
Quand même.
Voilà, ce qui veut dire qu'il y a un gars qui a tourné un bouton, l'autre qui a ouvert une porte et puis le dernier qui a passé la serpillière. Quoi.
Là, faut arrêter. T'exagères peut-être un petit peu. Là.
Non, c'est assez courant. On place aussi parfois des jeunes thésards en début de publication parce qu'il faut que leur nom apparaisse très rapidement, etc. Donc il y a toute une stratégie qui parfois peut être valide, parce qu'après tout, la personne elle a pu travailler, mais il arrive très 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 souvent qu'on favorise certaines personnes au détriment des autres.
D'autre part, il y a aussi la manière dont les publications sont retenues par les revues qui peut intervenir.
Alors le système dit peer-to-peer, le système de relecture et de publication, est effectivement un élément important. En fait, en général, les scientifiques sont responsables de leurs textes devant leurs pairs.
Développe un petit peu, ça veut dire concrètement...
Alors, ça veut dire qu'on envoie un papier scientifique qu'on a bien élaboré, qui a été bien terminé, qui est parfait, a priori dans notre tête à nous et avec les chercheurs qui nous ont entourés. On l'a parfois même fait relire par des chercheurs qu'on connaît pour leur demander leur avis. Quand on est le plus ouvert possible, on essaie de travailler avec les autres pour leur dire, ben voilà, moi j'ai découvert ça, qu'est-ce que tu en penses ?
Ça part d'une bonne démarche.
Voilà, tout à fait. Une fois que le papier est fait, que tout est inscrit, qu'on a bien placé les gens dans le bon ordre, qu'on ne s'est pas trompé sur la méthode, etc., on envoie ça à l'international dans une revue qui va la faire relire par des lecteurs. Alors ça engage en fait une sorte de vase clos qui est le plus souvent inconnu, c'est-à-dire que ces pairs, entre guillemets, qui vont te relire sont des gens que tu ne connais pas. Très souvent, on ne connaît même pas leur nom. Alors là, du coup, comme c'est dans l'anonymat le plus complet, on imagine bien que ça fait référence à tout ce qu'on veut. On peut être relu ainsi par un jeune thésard américain qui n'a même pas de travaux de réaliser, ou au contraire, par un très grand ponde qui, lui, est parfaitement compétent dans son domaine. Tout ça, c'est dans la responsabilité de la revue. Mais comme tout reste le plus souvent anonyme et discret, évidemment, on n'a aucun moyen d'en faire quelque chose. Les critiques peuvent être très intéressantes, parce que la personne peut être très compétente. Mais la vie peut aussi être biaisée. On a très souvent le cas de textes qui sont refusés simplement parce qu'elles dérangent le chercheur qui va le lire. On va avoir ainsi une fraude à la lecture, qui est une fraude très importante, beaucoup plus importante qu'on croit. Et il y a ainsi beaucoup de travaux scientifiques qui sont gaspillés, non publiés, ou publiés très en retard, parce que les auteurs refusent que le texte passe. On va prendre un simple exemple, encore sur moi-même, pour ne léser personne. Le cas, par exemple, de l'homosexualité chez le putois. Donc on avait envoyé un super papier bien, bien rédigé, dans lequel on montrait que des mâles de putois et des femelles de putois, c'était en 98, donc à une époque où on n'en parlait pas encore beaucoup dans les textes scientifiques, pratiquaient des comportements intéressants. Alors, les putois faisaient des pénétrations anales, les femelles faisaient des léchages et tout un ensemble de choses. Eh bien, on est tombé sur un chercheur scientifique qui nous a dit qu'il fallait qu'on enlève les femelles de putois de nos références.
Pour quelle raison, non ?
Simplement parce que pour lui, l'homosexualité consistait obligatoirement à utiliser un gode et une pénétration.
Ah oui,
et sans gode et sans pénétration, c'était...
Voilà. Comme...
Alors, il a coincé ce texte par tous les moyens possibles, puisqu'à chaque fois, étant l'un des grands spécialistes du sujet, on ne pouvait tomber que sur lui comme lecteur. Ce qui fait que ce texte étant coincé, évidemment, il a été refusé. On voit très bien ici que ce sont des considérations idéologiques qui ont empêché la présentation de ce texte. En plus, il y a un autre facteur qui est très important d'un point de vue scientifique, c'est que si le relecteur fait des critiques trop trop importantes, les revues en général décident d'entrée de jeu que le texte n'est pas bon. Et parfois, il arrive même que même si les relecteurs sont positifs, le patron de la revue va vous dire « Oui, mais bon, le thème ne paraît pas assez spectaculaire pour moi, il ne va pas être assez porteur, donc je vous refuse. » Il y a donc ici une validation scientifique qui est faite, mais pourtant le texte ne passera pas non plus. Et puis les revues scientifiques publient très rarement des choses qui sont négatives. C'est-à-dire que si on va dans le sens d'une théorie, bah, ça va être publié. En revanche, si on critique une théorie, eh bien on n'est pas publié. Ce qui fait qu'il y a une survalorisation scientifique de tout ce qui semble aller dans le bon sens. Hein. Par exemple, on peut publier le gène de ceci ou le gène de cela. Mais si on publie que le gène dit de ceci ne fonctionne pas, bah, du coup on ne passera pas parce qu'on va dire bah, « refaites vos expériences, vérifiez que ça marche pas, etc. » C'est toujours beaucoup plus difficile de dire non que oui. Alors que c'est l'inverse en démarche scientifique, si on réfléchit bien. Prenons un exemple. Si je dis « tous les mammifères ont le sang chaud », je vais avoir du mal à prouver que ça c'est vrai. Il va falloir que je publie tous les mammifères existants, tous les mammifères ayant existé et tous les mammifères futurs. Alors que si je prouve en montrant qu'un seul mammifère n'a pas effectivement un système homéotherme, eh bien du coup je vais découvrir qu'effectivement c'est faux. Donc on voit que c'est à la fois plus facile de dire non que oui, et pourtant c'est souvent le
c'est
oui.
C'est difficile à
le oui qui l'emporte.
Qui, d'accord, tout à fait.
We'll be right back. why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the dead.
Iron Maiden, La Dance of Death.
Revenons donc à toutes nos problématiques de fraude. Finalement, il s'agit de rechercher un consensus et de ne pas présenter des données qui fâchent.
Voilà, si le papier scientifique peut être accepté par une revue, par le lecteur, par les lecteurs qui vont relire le papier scientifique, il faut évidemment être en accord avec lui. Alors c'est complètement contradictoire encore, puisque la science, normalement, ne peut pas rechercher de consensus, puisque la science n'est pas l'objet d'un consensus. Or, le problème, c'est que c'est trop souvent ça qui finit par être accepté. Alors, on a l'exemple de la découverte, par exemple, de la planète Pluton. La planète Pluton a été découverte, et comme c'était la seule découverte faite par des Américains, eh bien, on l'a qualifiée de 9e planète, alors que tout le monde savait qu'elle n'était pas une planète au sens strict, que c'était un corps céleste qui avait pas une circulation orbitale normale, etc. Elle est trop petite, elle n'est pas dans le même axe. Mais comme il fallait quand même qu'on donne un peu à tout le monde le fait qu'il y ait des bonnes découvertes et qu'il y ait des grandes recherches, eh bien, on a accepté de manière molle un peu cela, tout en disant en sous-main que non, c'en était pas une, mais que c'en était une.
C'est très ambigu.
On a fait apprendre aux enfants pendant des générations qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire, dont notre ami Pluton. Et maintenant, évidemment, on est obligé de désapprendre ce mécanisme-là. Et ça, c'est sous l'effet de reviewers qui, en quelque sorte, imposent des éléments de connaissances scientifiques qui vont faire consensus.
En fait, d'où l'importance dans ce système de l'intégrité du reviewer.
Ben oui, mais comme ça ne repose que sur l'intégrité d'un type qui va rester dans l'anonymat, c'est évidemment très discutable. Car le reviewer va aussi pouvoir orienter le contenu. Le reviewer, n'oublions pas, c'est quelqu'un qui est spécialiste du sujet. Comme il maîtrise le sujet, c'est souvent qu'il a déjà publié dessus. Par conséquent, s'il ne voit pas dans la bibliographie qu'on fait référence à lui, ou si on critique ce qu'il a fait comme travaux, eh bien il a une forte tendance, surtout qu'il le fait de manière anonyme, à modifier la trajectoire ou à modifier le contenu. Donc ils vont orienter le contenu en disant « oui, mais ça ne peut pas être publié si on n'ajoute pas ça ou ça et ça et ça ». Ce qui fait qu'ils vont retenir des papiers qui peuvent être modifiés, selon l'orientation que eux veulent leur donner, ou alors ils ne retiendront pas les papiers. Dans le cadre, par exemple, de mes putois qui pratiquaient de l'homosexualité, eh bien, comme il ne pouvait pas modifier l'idée que l'homosexualité, pour lui, n'était quelque chose qui ne pouvait pas exister dans la nature, eh bien, évidemment, il a préféré refuser totalement le papier. Mais s'il avait pu l'orienter en disant « oui, mais c'est parce que c'est en fait une expression, ça a souvent été le cas, une expression de la dominance des individus les uns sur les autres, c'est pour ça qu'ils se montent dessus, c'est parce qu'il y a un qui est dominant et l'autre qui est dominé », eh bien, du coup, il aurait accepté le papier si j'avais dit ça. Donc on voit très bien que là, on est en train de transférer les conclusions d'une observation de putois qui font une vraie sodomie en une interprétation qui va évidemment être totalement modifiée, qui va modifier totalement le contenu même du document scientifique.
Alors la neutralité du reviewer est très ambiguë dans ces cas-là.
Tout à fait.
Là, ils orientent effectivement le contenu. Alors, on va revenir aussi à la manière dont se construit la problématique en lien avec tous les éléments d'idéologie qui peuvent parcourir.
Oui, parce qu'on voit bien à travers cet exemple-là que c'est bien les questions idéologiques du chercheur qui posent problème. C'est-à-dire que dès le départ, il avait déjà des a priori, des préjugés.
Humain, trop humain, quelque part aussi, peut-être.
Tout à fait. Alors là, c'est là où la problématique et sa construction sont importantes. Parce que lorsqu'on fait des références, lorsqu'on lit les références bibliographiques, on peut oublier certains auteurs, certains travaux antérieurs, on peut oublier certaines manières de faire, s'associer avec certains, s'associer avec d'autres. Et dans le pire des cas, ça peut conduire à des plagiats ou avec une prédominance de travaux particuliers. Comme les reviewers peuvent aussi s'approprier la problématique ou empêcher qu'elle sorte, c'est évidemment très important de, en quelque sorte, faire consensus. Et là, on n'est plus du tout dans un cadre scientifique, on est dans un cadre d'une croyance, dans le cadre d'un préjugé. Il n'y a pas d'autre moyen de faire non plus, parce qu'il faut bien entendu se confronter à des scientifiques pour devenir un scientifique. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça se passe de manière aussi anonyme. Il y a actuellement des mouvements qui refusent la présentation de textes comme cela à des reviewers anonymes, ou voire même de passer par par le système peer-to-peer pour préférer d'autres systèmes de publication scientifique qui seraient en quelque sorte publiés d'une manière ouverte. C'est pas si simple à gérer comme problème.
Non, parce que j'ai connaissance aussi que dans certaines revues, ils proposent, ils demandent des noms de reviewers.
Ils sont anonymes. En général, la personne qui présente son papier ne sait pas qui est le reviewer. En revanche, les listes des reviewers sont présentées à la suite. Mais comme il y a énormément de reviewers pour énormément de papiers, évidemment, on ne peut pas vérifier qui a lu quoi. C'est très compliqué. Sans compter que, bien entendu, dans cette méthode-là, les reviewers, il y en a aussi qui sont fatigués de lire sans arrêt des papiers qui sont parfois d'ailleurs de très mauvaise qualité ils le refusent de manière relativement méchante. Mais on voit bien la qualité d'un reviewer à sa manière de répondre. La plupart des grands reviewers vont faire des critiques en mettant leur nom, en expliquant.
En argumentant.
Moi, par exemple, j'ai quasiment toujours argumenté, toujours mis mon nom ou presque. Mm-hmm. Et dans la plupart des cas, on fait une critique qui est positive. C'est-à-dire qu'on explique voilà ce qui ne va pas dans le papier à notre avis et voilà comment il pourrait être amélioré si dans l'état actuel, il n'est pas publiable. Alors que les autres vont faire un dénigrement systématique du genre, oui, vous n'avez rien compris, c'est nul, votre papier n'est pas bon.
Moi, j'étais surprise quand tu m'as fait voir certains des commentaires de reviewers qu'ils soient assez méchants. Parfois.
Par exemple, nous dire sur les putois que tant que nos femelles n'utilisaient pas de godemichet, on ne pouvait pas parler d'homosexualité. D'abord, c'est une méconnaissance totale de la réalité d'homosexualité, même humaine.
Tout à fait.
Mais en plus, c'est évidemment une méchanceté gratuite qui. Alors, il faut se rappeler que la science fonctionne avec des humains. Le but. Dans ce cadre théorique de consensus, de privilégier le consensus pour plaire à tout le monde, c'est aussi de coller à des théories particulières. Alors, il faut bien rappeler que la science ne peut pas se construire avec des consensus. Un consensus, c'est une croyance, une adhésion. Or, si on peut adhérer à une conviction, voire adhérer à une religion, évidemment, on ne peut pas adhérer à une science.
En 2016, il y a d'ailleurs eu un livre qui est sorti s'intitulant « De la malscience de la fraude dans les laboratoires » par Nicolas Chevassus-Auluy, biologiste et historien, qui apporte des éléments nouveaux.
Oui, il signale partout qu'il y a beaucoup de petits arrangements avec les statistiques, des inventions de données, des plagiats, des doublons. D'ailleurs, il y a eu en psychologie expérimentale une enquête de fait qui montre que sur 100 recherches publiées dans le domaine, en 2008, eh bien, les deux tiers donnaient des résultats qui étaient impossibles à reproduire. Or, la reproductibilité des résultats est évidemment un élément clé de ce qu'on peut appeler de la science. On dirait que les scientifiques ont pris la triste habitude d'améliorer leurs résultats. D'ailleurs, on ne publie jamais de résultats négatifs. Et on pourrait s'inquiéter du comment il se fait qu'on ne publie pas des résultats négatifs, qu'on ne publie que des hypothèses très pertinentes. Eh bien, c'est parce qu'il faut publier, publier, publier dans un monde extrêmement concurrentiel. Alors, on a parfois des taux de reproductibilité qui sont inférieurs à 20%, ce qui est quand même relativement faible. Et puis, beaucoup de chercheurs reçoivent aussi des courriers électroniques leur demandant d'être présents dans le dispositif éditorial de revues, qui sont parfois des revues totalement médiocres, totalement bidons, qui font payer les auteurs. Et donc, évidemment, quand on paye, la revue a tendance à plus accepter. Et puis, évidemment, tout ça donne des choses étonnantes. Par exemple, en 2013, un journaliste de science a rédigé un faux article de pharmacologie qui était truffé d'erreurs, qui a été proposé à 304 de ces revues, et 157 de ces revues ont accepté. C'est-à-dire plus de la moitié des revues ont dit oui à un article totalement idiot.
Mais est-ce que les fraudes depuis 2013 ont diminué ou augmenté ?
Ah ben, ça augmente terriblement. C'est même une explosion des fraudes, à tel point qu'il y a maintenant de multiples articles qu'on rétracte tout simplement. Alors, les causes principales de rétractation, c'est parfois évidemment des erreurs, mais le plus souvent, c'est la fraude, les doublons, les plagiats, et puis bien entendu, l'absence de citation dans les revues ou dans les livres. Alors, quitte à prendre des risques d'ailleurs de frauder comme cela, ben autant prendre des gros risques. Donc, on le fait souvent dans des grosses revues, dans des gros bouquins qui ne garantissent plus du tout la qualité de la science, bien au contraire. Par exemple, le psychologue hollandais a tracté 55 de ses 130 articles. C'est pas peu dire.
C'est important.
Alors le problème, c'est que les autres articles restent sur le terrain et puis que quelqu'un de bonne foi peut les citer en ne pensant pas que c'est un fraudeur. Il y a aussi un anesthésiste allemand, par exemple, qui a rétracté 90 articles pour fraude.
Et
il en reste encore une cinquantaine de lui qui existent. Et encore, il les a rétractés parce qu'il a été pris la main dans le sac. Donc tout montre bien qu'on arrange partout, qu'on a pris l'habitude d'arranger les résultats et tout ça parce qu'il n'y a pas de critères à partir de quand on a le droit d'embellir, d'oublier de citer quelqu'un et les critères qui font que ça serait pas scientifique. Or, le problème, c'est que les théories vont bien entendu être celles qui vont permettre d'exposer et d'expliquer les faits. Donc la construction de la théorie scientifique, la biologie théorique en quelque sorte, est probablement l'un des moments les plus importants, parce que c'est dans cette construction théorique-là qu'on va voir le poids des idéologies dominantes qui peut peser.
Tu veux dire que les résultats scientifiques, finalement, sont influencés par la pensée dominante.
Oui. Par exemple, Lamarck, quand il a posé la question de la théorie évolutive, quand il a commencé à montrer que les espèces dérivaient les unes des autres à partir de ses travaux sur les animaux à sang froid, il a découvert l'évolution, il a découvert qu'entre le ver de terre et les insectes, il y avait des relations, qu'entre les crustacés et les vers, il y avait des relations obligatoirement de formation des corps, eh bien, il a écrit un superbe livre sur le fait que les uns dérivaient des autres, il a appelé ça l'histoire naturelle. Et cette manière de construire une validation historique de la transformation des êtres vivants, eh bien, a été totalement, totalement discrédité par Cuvier en tête, hein, qui a complètement dénigré ce travail. Or, Cuvier a même écrit un texte fameux dans lequel il explique tout un ensemble de choses tout à fait ridicules.
Oui, Cuvier d'ailleurs disait en 1832 « Les canards, à force de plonger, devinrent des brochets ». Les brochets, à force de se trouver à sec, se changèrent en canards. Les poulets, en cherchant leur pâture au bord des eaux et en s'efforçant de ne pas se mouiller les cuisses, réussirent si bien à s'allonger les jambes qu'ils devinrent des hérons ou des cigognes. Ainsi se formèrent par degrés les 100 000 races diverses dont la classification embarrasse si cruellement la race malheureuse que l'habitude a changé en naturaliste. Voilà donc cette fameuse citation de Cuvier.
Oui, voilà Cuvier qui moque ainsi Lamarck en expliquant que, évidemment, l'évolution lui paraît impossible. Et on voit très bien que ce dénigrement a en fait permis, en quelque sorte, d'empêcher la théorie d'évolution d'avancer. En plus, ils ont été victimes, les Lamarckiens, d'un deuxième dénigrement lorsque Darwin a imposé la théorie de la sélection naturelle, là aussi en caricaturant la plupart des thèses de Lamarck. Alors là, effectivement, on l'expose très bien dans le livre...
Le fameux, ton livre, Le Manifeste pour une écologie évolutive, n'hésitez pas, c'est... Voilà. Très intéressant et plein de citations.
Dans lequel on voit bien justement à travers toutes ces citations comment le darwinisme s'est construit contre Lamarck en inventant le Lamarck qu'il devait détruire, puisqu'évidemment il fallait le dénigrer d'une manière ou d'une autre. Donc dans un cas, c'était l'idéologie chrétienne royaliste de Cuvier qui a empêché Lamarck d'arriver. Dans le second cas, c'était la domination du monde marchand et industriel. Mais les deux cadres idéologiques ont d'abord dénigré l'importance théorique de Lamarck et l'importance théorique de la théorie évolutive.
Je vous dis science, sans conscience.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire Alpha Blondy qui nous chantait « Science sans conscience ». Nous revoilà sur 89.4 et sur Internet avec une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité. Et dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, Science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Revenons au sujet de la fraude scientifique. Parmi les idéologies qui ont une incidence, il y a aussi le stalinisme avec, il me semble, Kalissenko.
Alors oui, le Kalissenko est probablement, si on a le cas le plus couramment cité pour parler de la fraude scientifique. Hein, Lysenko a truqué ses résultats parce qu'il voulait à tout prix retrouver un lamarckisme très, très direct. Et donc, il a voulu contredire la naissance de la génétique de l'époque. Alors, Lysenko, il faut se rappeler que c'est un Ukrainien qui est mort en 1976. C'était un technicien agricole, Trofim Dessinovitch Lysenko, et qui a inventé en fait une théorie scientifique qu'il a appelée la génétique mitchourinienne. C'était à l'époque de la grande période stalinienne. Et donc c'est à peu près dans ces années d'après-guerre, à la grande époque de Staline, que cette théorie a accédé au statut de théorie officielle, qui fut donc opposée à l'époque par le stalinisme, à la science bourgeoise, qui donc par définition devait être fausse. Alors il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide, qu'à partir des travaux des généticiens américains, et notamment de Morgan, et sur les théories chromosomiques de l'hérédité, vont faire émerger toute une science américaine, et qu'en URSS, on va évidemment nier, on va interdire même ces travaux, on va empêcher les laboratoires de génétique de travailler, et donc ce technicien agricole, Kalissenko, va se faire le promoteur d'une découverte qui a été pourtant faite au début des années de 1800, qui permettait de transformer les blés d'hiver en blé de printemps, en jouant sur le rôle de la température. Et donc, en quelque sorte, c'était l'environnement qui pouvait faire que le mécanisme devenait héréditaire. C'était une découverte, évidemment, de l'influence de l'environnement, mais qui a dû être très vite abandonnée. Alors, il ne faut pas non plus nier l'intérêt de certains travaux d'Essenko qui ont apporté à la biologie tout un ensemble d'éléments qui, maintenant, sont expliqués au niveau moléculaire. Mais, malgré tout, c'était un des suppôts du stalinisme. Il a participé à des purges dans les milieux de la recherche scientifique pour aussi assurer sa propre capacité, lui, à avancer. Et il avait, dès 1934, affirmé la non-compatibilité de la génétique et du communisme qui devait émerger de ce travail scientifique, puisque à l'époque, n'oubliez pas, le marxisme posait que la transformation de l'homme était une nécessité scientifique pour arriver à cet idéal communiste dont on connaît évidemment le rôle, quand on connaît bien le rôle dictatorial de Trotsky, de Staline et d'autres, dans cette ambiance particulière. Il fallait aussi, pour Lysenko, développer le darwinisme, mais en empêchant une débat scientifique importante qui était en train de devenir américaine, qui était celle des éléments concurrentiels, etc. C'est donc par pure idéologie, là, que la fraude scientifique s'est organisée en grand, hein, parce qu'en Russie à l'époque, enfin, en URSS de l'époque, on a fait les choses en grand.
Oui, alors comme tu l'as évoqué au début, la manière dont un chercheur obtient ses données et construit sa méthode joue. Où telle découverte est attribuée à telle personne. Enfin, on va repartir un peu sur ce sujet et notamment développer le cas Mendel.
Alors, il ne faut pas oublier que Mendel a été en quelque sorte cherché. Ce n'est pas lui qui a demandé à devenir célèbre. C'est parce qu'en génétique, on a eu besoin de trouver quelqu'un qui donne une sorte de date de création de la génétique que tout le monde dit maintenant « Ah là !» La génétique a débuté tel jour, le jour où Mendel a publié son travail obscur au demeurant et solitaire, etc. Alors ça, évidemment, ça n'était pas tout à fait vrai.
Et la manière dont Mendel a obtenu ses résultats a été peut-être trop, finalement, parfaite.
Hein. Oui, la répartition des petits pois était trop bonne. Alors, on se rappelle que c'est principalement par l'horticulture que la question d'hérédité va être posée, et que tout le 19e siècle, dès les années même 1778 et surtout les années 1820, on va avoir des chercheurs, notamment français, qui vont se poser la question de l'hérédité. Alors, c'est principalement avec Augustin Sageret, par exemple, que l'hérédité va être... que l'hérédité par mélange, telle qu'elle était auparavant posée, va être... réfuté au profit d'une hérédité qui va parler de la ségrégation et de la recombinaison des caractères. Ce sont des expérimentateurs en horticulture, généralement en France, qui ont été les premiers à établir ces lois fondamentales de la génétique. Par exemple, c'est à Pyram de Candolle qu'il faut attribuer l'étude quantitative des caractères sur la descendance, et à Sageret qu'on doit la loi d'indépendance des caractères. Alors ces deux lois-là...
On les a oubliées, ces personnes
On les a complètement oubliées, ces deux lois sont même attribuées à notre ami Mendel. C'est-à-dire qu'on dit que c'est Mendel qui a établi la loi de la ségrégation et que c'est Mendel qui a fait l'autre loi de recombinaison des caractères. Or, en fait, l'indépendance des caractères, ce n'est pas une loi qui est tout à fait stricte, mais elle a permis de bien avancer sur les choses. Bon, par exemple, Sageret dit « Il m'a paru qu'en général, la ressemblance de l'hybride à ses deux ascendants constituait non dans une fusion intime, mais bien plutôt dans une distribution soit égale, soit inégale des divers caractères. » Alors ensuite, il effectue de nombreuses hybridations, il travaille avec des melons à chair jaune, etc. Et ce travail majeur va démontrer que la distribution des caractères peut être même très variable chez les descendants. Et puis alors, devançant très très largement Mendel, c'est Pyram de Candolle qui, en 1813, on n'est pas en 1890, affirmait en 1813 qu'on sème des graines de hêtre pourpre, et on verra que sur les jeunes plants, environ la moitié naîtront verts, comme l'espèce primitive, un quart pourpre pâle et un quart que pourpre décidé. Donc on voit qu'il a déjà élaboré les lois statistiques qu'on va attribuer ensuite à Mendel. Or, c'est dans sa théorie élémentaire de la botanique de 1813 aux éditions d'Éterville qu'on retrouve cette phrase-là. En outre, d'autres chercheurs dans les années 1850, comme Charles Naudin, encore un Français, va utiliser tout son savoir horticole sur des pétunias pour comprendre comment se répartissent les couleurs, les intermédiaires. Tout ça nous montre qu'on était parfaitement capable de connaître le véritable pourcentage des variants et que quand Mendel a commencé ses travaux, tout ça, il ne l'ignorait pas, il était en contact avec ses chercheurs, il leur écrivait et il maîtrisait tout cela. Le problème, c'est que lui, il a fait des statistiques qui étaient du coup totalement fabuleuses.
Donc, Sageret avait découvert la recombinaison des caractères en 1826, mais alors qu'en est-il de l'histoire de Mendel, dont la biologie officielle finalement nous dit qu'il est l'inventeur de la génétique ?
Alors, en effet, on répète ça, les enfants l'apprennent à l'école,
oui,
on leur dit,
cela,
on dit à l'école,
Mendel,
oui, il faut dire que Mendel, c'est l'origine, celui qui a inventé la génétique. Or, pas du tout, il a juste calculer ses lois, alors avec tous les jardiniers qui travaillaient avec lui dans son monastère, il a effectivement fait cultiver les graines de petits pois et à partir de là, comme par hasard, il va obtenir justement les pourcentages les meilleurs qu'on puisse faire.
Finalement, les proportions étaient trop parfaites.
Oui, parce que c'est les conclusions qu'il a fini par proposer sont des conclusions qui sont statistiquement impossibles à obtenir. Les chiffres sont beaucoup trop beaux pour être vrais. Notre botaniste, il a eu l'idée géniale d'utiliser le même dénombrement que ce qu'avaient fait les autres chercheurs avant lui, mais lui, il a ajouté des pourcentages et ses calculs statistiques sont évidemment arrangés. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, tous les chercheurs en génétique savent que Mendel a parfaitement arrangé ses résultats. En général, ils admettent que c'est pas très grave parce que finalement, s'il a arrangé ses résultats, comme les résultats sont bons, entre guillemets, les lois sont bonnes, oui. Oubliant complètement que même ce qu'on appelle les lois de Mendel ne sont pas des lois de Mendel, mais étaient des lois qui étaient définies bien avant l'arrivée de Mendel sur le marché de la recherche, si je puis dire.
Donc, quelque part, nous sommes en présence d'une fraude, mais d'une très bonne intuition. On peut dire que d'un certain côté, il s'agit d'une fraude qui a aussi asservi la science. Enfin...
Plus ou moins. En fait, on s'aperçoit surtout que la probabilité de l'obtention des résultats que Mendel a eu est quasiment infime. Alors, c'est les premiers généticiens qui ont parfaitement démontré que c'était impossible d'obtenir de tels résultats avec les moyens dont disposait Mendel. Bon, c'est un peu la même chose. Si vous avez une pièce de monnaie, par exemple, normalement, la probabilité est de 50-50 d'obtenir un pile ou un face, mais combien de fois faudra-t-il la lancer en l'air pour être certain d'avoir le même pourcentage ? Si vous la lancez deux fois, bah vous pouvez avoir deux fois pile ou deux fois face sans que ça soit obtenu cela. En plus, il faut bien voir que ce moine a bien choisi les références dont il avait besoin, parce qu'il a quand même tué au passage dans ses références la plupart des travaux qui montraient la même chose que lui, pour en quelque sorte réussir à passer bien dans cette petite revue.
Alors, avait-il accès aux travaux français ?
Oui, on sait qu'il les avait lus. Ah. Hein, c'était à l'époque, les recherches en botanique et notamment donc en agronomie étaient parfaitement développées, et tous ces travaux étaient parfaitement connus. il écrivait, il n'était pas du tout dans l'isolement le plus total. En outre, il n'est peut-être pas lui-même responsable de ce trucage, parce qu'il est possible qu'une partie de ses jardiniers aient participé eux-mêmes au trucage, ou que du moins il n'ait pas vu à l'époque l'importance. N'oublions pas que ce n'était pas un scientifique au sens strict, Mendel, c'était vraiment quelqu'un qui faisait de l'expérimentation horticole, et que cette expérimentation horticole, il fallait qu'il ait des résultats, donc son papier ne prête pas plus à conséquence. Cependant, de là à en faire le pape de la génétique, il y a quand même un pas qu'il faut passer.
Quels autres exemples peut-on citer ? Il y a même, il me semble, un chercheur qui a coloré des souris.
Oui, alors ça c'est la fraude de William Summerlin. Alors lui, c'est plutôt quelqu'un qui a été un peu dépassé. En fait, il travaillait sur les transplantations d'organes entre des souris pour essayer de comprendre comment se passait le système immunitaire. En fait, il a cru réussir à un moment donné à avoir des souris qui possédaient qui faisaient apparaître des taches noires sur leur peau en fonction des greffes qu'il avait effectuées et qui semblaient avoir réintégré tout cela. Or, du coup, évidemment, il était tout content d'avoir fait cette découverte qu'il pensait être bonne. Il l'a publiée trop vite. Il n'a pas fait vraiment toutes les vérifications expérimentales qui étaient nécessaires. Il y a quelques chercheurs qui ont mis en doute sa méthodologie avec la méthode dont il disposait, ce qu'il pouvait vraiment faire apparaître ça. Et là, du coup, le chercheur, il a paniqué. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous présente sa fraude. Il a complètement paniqué. Il était incapable de présenter ça. Donc, il a pris des souris blanches. Il les a colorées avec un marqueur noir.
Ah, carrément. Il a fait voilà. Du dessin.
Et donc là, il a fait un dessin sur la souris pour faire croire que sa méthodologie fonctionnait bien.
Dernièrement, il y a aussi le cas de la fraude d'une japonaise sur des souris encore.
Oui, alors c'est il fallait découvrir comment on pouvait fabriquer des cellules souches en faisant un choc acide. Ça, ça a été une découverte qui a suscité l'enthousiasme parce qu'on cherchait évidemment beaucoup comment obtenir des cellules souches. Or, le problème, c'est que les résultats de cette chercheuse ont été falsifiés. C'est fondé sur une méthodologie qu'on appelle l'électrophorèse sur gel. Et cette électrophorèse, en fait, correspondait à une fausse photo. Hein. Il suffisait de modifier en quelque sorte plusieurs gels par électrophorèse et on pouvait obtenir cela. Pourtant, ça avait fait évidemment un grand bruit parce que réussir à transformer des cellules de souris adultes en cellules souches par la soumission à un choc acide, on lui a même donné un nom à ce stimulus acide. Et donc, fabriquer ça, c'était ouvrir les portes à toute une recherche possible. Mais quand même, très vite, il y a des chercheurs qui se sont dit « mais ça marche pas bien, l'image semble être un petit peu bizarre, elle est reprise de la thèse de doctorat d'un auteur, mais en même temps, on voit pas trop comment ça fonctionne. On s'aperçoit que la photo, elle est falsifiée. » Et puis surtout, aucune équipe de recherche n'a réussi à refaire les mêmes résultats.
Donc, on s'est rapidement aperçu que... Voilà.
Donc, le directeur de recherche a demandé qu'il y avait un retrait de ces articles, mais il a fallu attendre tout un ensemble de critiques, et notamment de la jeune biologiste qui travaillait à l'époque sur ce sujet-là, pour comprendre en fait qu'elle avait effectivement falsifié cela pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir être intégrée dans cette grande équipe de recherche. Et on s'aperçoit que même si elle a plaidé, elle, en disant qu'elle l'avait vérifié plus de 200 fois, etc., on s'aperçoit très bien que le protocole qu'elle a proposé n'a jamais vraiment bien fonctionné.
us because they turned us down. Come on, babe, we'll show 'em. We'll show 'em that we're no clown. You can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. So we'll be happy together.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire Lillard in Armstrong and Her Swing Orchestra, Let's Her Happy Together. On voit donc qu'il y a une idéologie à la fraude scientifique, comme finalement ce fut le cas de l'homme de Pete Doe.
Oui, l'homme de Pete Doe est tout à fait démonstratif de la manière dont la fraude scientifique peut se mettre en place, puisque là il s'agissait vraiment de trouver le chaînon manquant entre le singe et l'homme, et évidemment, comme c'était les Anglais qui avaient à l'époque la grande découverte nécessaire, c'était scandaleux que tous les crânes soient trouvés en France, il fallait pour la bonne foi de la recherche scientifique anglaise, que quelque chose soit trouvé en Grande-Bretagne. Et c'est donc pour cela que finalement, on a découvert cette mâchoire de singe associée à un crâne d'humain pour en faire le fameux homme de Pete Doe. Alors la fraude a été découverte très rapidement ensuite, mais il n'empêche que si elle était accueillie avec tant de facilité, c'est bien parce qu'elle correspondait à un contexte idéologique de son temps.
Donc, la qualité de la démonstration est importante à mener dans une recherche.
Alors, dans la recherche scientifique, c'est clair que tout va primer, ça va être autour de la conclusion, de la démonstration et des conclusions principales, qui elles-mêmes dépendent en fait en grande partie de la méthode. D'où l'importance de maîtriser les différents outils qui vont permettre cette conclusion. Alors le cas évidemment le plus important là-dedans, c'est de voir comment on arrive à une conclusion.
On peut d'ailleurs citer un exemple dans le cas de Rosalind Franklin et de la découverte de l'ADN.
Alors, en effet, la découverte de l'ADN, c'était fait auparavant, mais c'est la découverte de la structure de l'ADN. La structure de l'ADN qui ont fait de Watson et Crick les grands responsables de cette découverte, les grands chercheurs, qui ont même récompensé par un prix Nobel, alors qu'évidemment, on ignore une grande partie de la méthodologie qui a été utilisée. Si Watson et Crick ont sans nul doute réussi à décrire la structure en double hélice de l'ADN, ils n'ont fait que ça. Et cette description qui a été faite n'a été basée sur des recherches qui avaient été élaborées par d'autres personnes, et notamment, en effet, par Rosalind Franklin, qui a joué un rôle fondamental alors qu'elle n'a jamais été récompensée.
Une femme, bien
sûr. C'est pas tout à fait un hasard, c'est une femme, ça se passe là aussi en Grande-Bretagne, alors que les chercheurs qui vont essayer de monter ça, il y a un Américain, c'est pas non plus un hasard, on a toute cette concurrence qui se met en place, et évidemment, la surexposition médiatique de Watson et Crick a permis qu'ils soient actuellement, même encore, on continue à enseigner que ces deux chercheurs, qui sont des fraudeurs, qui ont triché dans ce cadre-là.
Ils sont fraudeurs. C'est-à-dire
c'est une fraude.
C'est-à-dire qu'ils ont interprété...
Voilà, ils ont utilisé la méthode, en cachette qui plus est, la méthode mise en place par Rosalind Franklin pour exceller. Pour reparler un peu de la chose, on va dire que cette biologiste Rosalind Franklin travaillait sur l'ADN. Elle avait réussi à faire des clichés grâce à une technique particulière qui s'appelle la technique de diffraction des rayons X. Et elle travaillait avec Wilkins, en fait, en université à Londres, et là elle avait fait des clichés tout à fait remarquables. Ces clichés, elle avait un petit peu de mal à les interpréter, mais c'est elle qui avait réalisé tous ses premiers travaux. Or, Watson et Crick vont passer par hasard devant ces clichés, ils vont s'en emparer, et évidemment, ils vont à partir de là élaborer leur théorie en comprenant tout de suite cette structure en double hélice ou presque. Du coup, comme ils ont eu accès aux résultats de Rosalind Franklin sans qu'elle le sache, évidemment, on peut dire qu'elle aurait minimum être associée au travail, puisque c'est elle qui avait fait toute la base du travail. Eux, ils n'ont fait que l'interprétation. C'est beaucoup une interprétation, c'est un point important, il ne faut pas nier que c'est un élément important. Mais, évidemment, ça montre bien aussi l'ambiance très très nauséabonde qui tournait autour de ces chercheurs, qui étaient en concurrence, qui se battaient beaucoup pour trouver tout un ensemble de choses. Rosalind avait travaillé sur le virus de la mosaïque du tabac, mais aussi c'est parce qu'elle avait besoin d'argent pour continuer ses recherches. Et en fait, une semaine avant la publication des articles, il y a une lettre, comme par hasard, qui a été adressée à Rosalind, lui me disant « Bon, faut que tu arrêtes maintenant tes travaux sur l'ADN, ça sert plus à rien, tu as qu'à travailler sur autre chose. » Et évidemment, en disant ça, ça permettait de l'exclure de la publication qui allait venir une semaine après, dans le fameux article de Nature.
Et pourtant, ils avaient besoin de cette preuve-là. Le cliché était quand même une pièce importante.
Complètement. Mais il y a eu comme ça beaucoup, beaucoup d'autres de travaux qui ont été menés à l'insu des travaux des autres ou des travaux qui sont contestés, dénoncés comme frauduleux. Tous ces exemples-là donnent une bonne idée de l'ambiance qui peut régner dans certains laboratoires dans lesquels la concurrence est mise à outrance pour obtenir aussi tout un ensemble d'éléments prestigieux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des récompenses et si on ne mettait pas tous les gens en concurrence les uns par rapport aux autres, mais qu'on les mettait uniquement en travail en relation, et bien évidemment les recherches pourraient aussi avoir un impact beaucoup plus intéressant.
Il y a aussi une autre étude par Wakefield qui évoque la problématique des vaccins.
Voilà, tu fais allusion en fait à un travail effectivement fait par un grand breton, Andrew Wakefield, sur le vaccin rougeole au rayon rubéole qui aurait été associé, d'après son travail à lui, à un autisme doublé d'un vaste désordre intestinal. Alors en fait, on a non seulement vu... Wakefield, en gros, a travaillé sur une douzaine de cas, et sur cette douzaine de cas, il a tout de suite alerté la communauté scientifique sur le fait que le vaccin rougeole au rayon rubéole pouvait poser de très graves problèmes d'assimilation, de graves problèmes qui pouvaient effectivement entraîner des désordres, non seulement d'ordre donc digestif, mais aussi d'ordre mental, puisque l'autisme très sévère dont il parlait pouvait être intéressant. Or, le problème, c'était de comprendre d'où venait d'un seul coup cette découverte, alors que des milliers de vaccins avaient été auparavant obtenus. En fait, le travail qui avait été mené par Wakefield montre que c'est en l'absence totale de ses co-auteurs. Il a publié ça sur une douzaine de cas que lui avait révélés, mais avec tout un ensemble de co-auteurs pour valider son travail. Et dans la réalité, les co-auteurs n'avaient jamais eu accès à ces résultats. Ils ont accepté de signer, là encore, hein, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Il y a eu une enquête qui a été menée, qui a montré que, en fait, le Wakefield avait fait subir aux enfants qu'il suivait tout un ensemble d'examens particuliers qui, finalement, ont entraîné une grande partie du stress dans l'objectif, en fait, d'obtenir ces éléments-là.
Très ambigu tout ça.
Oui, parce que ce chercheur partait du principe que de toute façon les vaccins étaient inutiles et il faisait partie de groupes anti-vaccins. Il a mené tout cela malgré la rétractation de ses copains. On a bien vu que les résultats de cette étude sont restés ancrés dans beaucoup d'esprits et chez beaucoup de gens, alors qu'il s'agissait d'une fraude parfaitement évidente sur les problématiques de vaccination. L'objectif de ce monsieur était des objectifs purement idéologiques. Il pensait en effet que le système du vaccin était un mauvais système et il préférait, lui, d'autres méthodes à cela. Sauf qu'on a permis cette publication scientifique et que ça a évidemment conduit à un autre problème. On a l'autre exemple très célèbre aussi de la mémoire de l'eau dont on pourrait parler. Là encore, une publication qui était en faveur de l'homéopathie et qui essayait de prouver que l'eau, même après des centaines et des centaines de dilutions,
il y avait de la mémoire.
Voilà, pouvait garder la mémoire des molécules à l'intérieur d'elles-mêmes, grâce à des relations. Là encore, il s'agissait d'une fraude. Les résultats n'ont jamais pu être refaits, y compris par celui qui disait qu'il les avait faits. Hein. Le chercheur lui-même qui les avait découverts n'a jamais été capable de les reproduire. Et ensuite, évidemment, ce travail était totalement invraisemblable d'un point de vue moléculaire. Donc ce genre de fraude arrive fréquemment lorsque les chercheurs veulent pousser à la reconnaissance d'un véritable travail et que pour cela, ils vont utiliser des données falsifiées ou falsifier les conclusions de certaines données pour réussir, en effet, à obtenir ce type de résultats et réussir à faire que le public, hein, notamment les journalistes, puissent s'emparer de leurs travaux et de cette étude particulière.
Ils modifient la réalité.
Voilà, il s'agit bien de modifier la réalité en fonction du contexte.
Il avait nos cornes de roc, au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, au guet, il avait nos cornes de roc, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, au guet, en le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, cornes de roc. Mais que le bon Dieu lui pardonne, au guet,
au guet, c'était celle du robinet. Au guet, que le bon Dieu lui pardonne. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe. Il potassait à la chandelle, au guet des traités de maintien sexuel, au guet, et sur les femmes nues des musées, au guet faisait le brouillon de ses baisers, au guet, petit à petit, au guet, on a tous eu de lui, au guet, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille corne d'Europe, qu'il avait un petit cousin, au guet, au placé chez les argousins, au guet, et que les jours de pénurie, au guet, il prenait ses repas chez lui, au guet, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique corne d'Europe, parce que c'était à un Allemand, au guet, qu'on devait le médicament, au guet, parce que c'était à un Allemand, au guet, qu'on devait le médicament, au guet, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales, corne d'Europe. Alors sa veuve en gémissant, au guet, coucha avec son remplaçant, au guet, alors sa veuve en gémissant, au guet, coucha avec son remplaçant, au guet.
Corne d'Europe par un Brassens qui dénonce déjà le mensonge.
Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, science en liberté.
Et aujourd'hui, nous faisons un état des lieux de la recherche et surtout de l'importance de la fraude scientifique.
Dans un monde comme la recherche où rigueur, honnêteté devraient prédominer, ce phénomène est-il quelque chose d'important ?
Oh que non, oh que non. En fait, la petite fraude est probablement le cas le plus fréquent, la petite délinquance de tous les jours, on ne cite pas les gens, etc. Ça, nous allons en reparler. Mais il existe effectivement aussi une augmentation de la grande fraude scientifique, même si celle-ci est beaucoup plus facile à révéler et à montrer. Une étude qui a été conduite en 2012 a permis de mettre en état des lieux un très très grand nombre d'articles scientifiques, notamment dans le champ biomédical, puisque en étudiant la manière dont les rétractations étaient faites suite à des contestations ou à des textes qui critiquaient le travail réalisé, on s'aperçoit que les deux tiers des rétractations sont dues à des cas de fraude scientifique, généralement du plagiat ou de la manipulation volontaire de données. Alors c'est pas un petit fait, on s'aperçoit que c'est au contraire une hausse incroyable de la fraude scientifique, donc on est très loin d'être marginal, on est ici dans une intensification de mauvaises pratiques, avec probablement aussi une plus grande sensibilité dans les possibilités de la détecter.
L'étude que tu évoques fait tout de même apparaître effectivement une augmentation de retraits.
C'est la demande de retrait qui a été augmenté dans les journaux de médecine, notamment anglo-saxons, et serait augmenté de 44% entre 2001 et 2010.
C'est conséquent.
C'est conséquent, c'est très important. Hein, ça fait quand même beaucoup de travaux qui sont réfutés et qui sont fondés sur des données mal interprétées ou en tout cas trichées. Et en fait, en travaillant sur ces données, qui regroupent quand même pas loin de 25 millions d'études hein, dans le domaine de la recherche biologique et médicale, il faut voir qu'il y a eu une grande inflation aussi des recherches, période de 2000 à 2010. Alors il y a deux causes principales qui motivent ça. La première cause, c'est l'erreur dite involontaire, c'est-à-dire qu'il y a une bonne foi des chercheurs qui n'est pas remis en cause, mais il y a eu un problème expérimental, l'interprétation des résultats a été un petit peu trop soulignée.
Cela peut arriver.
Oui, enfin, c'est quand même souvent des cas qui montrent que la recherche s'est faite trop vite, qu'on veut publier, publier, et qu'au bout du compte, il y a une pression qui s'est exercée d'une manière ou d'une autre sur le chercheur, avec des véritables problèmes expérimentaux. L'autre problème, c'est la violation délibérée des pratiques de recherche scientifique. Alors, ça peut être du véniel, hein, c'est-à-dire on trouve de l'autoplagiat, l'habitude qu'ont certains chercheurs de faire 3, 4, 5 publications avec les mêmes données, à partir de la même expérience. Tout ça pour augmenter artificiellement leur nombre de publications. Et puis, bien sûr, la fraude sur les données, c'est-à-dire qu'on modifie le contenu des données pour réussir à passer quelque chose parce qu'il y a des données qui ne fonctionnent pas bien. Les trois quarts des résultats disent que ce sont principalement des erreurs statistiques ou des données qui ont été oubliées, mais il y a quand même beaucoup de données qu'on pourrait parfaitement placer dans la catégorie des fraudes. D'ailleurs, selon les auteurs, il y a des rétractations ambiguës dans lesquelles on ne sait pas trop pour quelles raisons finalement l'élément apparaît. On qualifie d'erreur des choses qui sont très très proches de la véritable fraude.
Proportionnellement, on peut aussi dire que cela ne concerne qu'un article scientifique environ sur 10 000.
Alors,
proportionnellement, ce n'est pas tant que cela non plus.
Ça, c'est quand on additionne tous les travaux de recherche, on a à peu près une fraude sur 10 000 qui est avérée. Mais il faut bien penser qu'à travers cette hausse de la fraude, on ne fait là que découvrir le haut du panier. D'abord, il y a des fraudes qui passent inaperçues malgré tout, même si effectivement le fait de dénoncer les fraudes montre contradictoirement que la méthode scientifique est valide, puisqu'elle permet de s'apercevoir au bout du compte, au cours de l'histoire de la recherche, que tel et tel travaux étaient évidemment truqués. Il n'empêche que l'augmentation de ces fraudes signifie aussi qu'il y a à côté de ça tout un ensemble de petites pressions qui vont exercer et qui permettent de faciliter la présence d'une fraude qui va devenir petit à petit traditionnelle, petit à petit courante dans les laboratoires scientifiques.
Dans une étude publiée en 2005 dans la revue Nature, une enquête auprès de 2000 chercheurs financée par le National Institute of Health révèle que 33% d'entre eux reconnaissent avoir eu une pratique non déontologique dans les 3 années précédentes. Et leur anonymat a été préservé.
Alors là, c'est dans un cadre scientifique et médical. Donc on voit déjà que 33% des chercheurs reconnaissent honnêtement avoir triché malhonnêtement, ce qui est quand même pas mal. En fait, à chaque fois, ce sont des petites pratiques, une petite délinquance courante qu'on voit de plus en plus s'afficher dans les labos, notamment en Amérique où la pression entre les chercheurs est très extraordinairement importante, mais qui est parfaitement présente. Hein. Je mets au défi la plupart des chercheurs qui travaillent en France de ne pas me dire qu'ils n'ont pas assisté à côté d'eux à l'ajout d'un auteur supplémentaire dans une étude où le chercheur n'est jamais venu, un traficotage sur les noms des chercheurs, un petit traficotage sur la possibilité de faire apparaître telle ou telle phrase qui avait été oubliée auparavant, des autres qu'on enlève dans la citation parce qu'on ne veut pas en avoir de trop, ou au contraire des références qui vont être additionnées parce qu'il faut faire plaisir à un tel ou un tel. Moi, j'ai même entendu dans des bureaux d'à côté des coups de téléphone d'un chercheur qui appelait un grand patron d'une revue en disant « Oui, mais non, c'est pas normal, on m'a refusé dans cette revue-là, est-ce que tu peux intervenir sur cette revue pour me faire passer ?»
Très voilà. Ambigu, tout ça.
Moi, on m'a demandé des dizaines de fois de modifier des choses et j'ai eu un article avec un de mes thésards qui a été complètement plagié par un chercheur allemand qui, évidemment, nous avait refusé dans un premier temps dans la même revue. C'est relativement simple. Pour bien montrer le plagiat, nous avons d'ailleurs, avec mon jeune chercheur, publié exactement les mêmes phrases que nous avions envoyées, ce qui fait que la publication par le chercheur allemand contient des phrases qui sont typiquement de nous et que nous avons nous reproduit dans un deuxième article exactement à la virgule près, parce qu'on voulait évidemment afficher le fait que c'était bien nos phrases qu'on avait faites. Généralement, on sous-estime le plagiat qui dépasse probablement les 9 à 10%, les non-déclarations de conflits d'intérêts, le non-respect des règles éthiques, l'utilisation des données d'autres personnes sans lui dire, ou alors d'une méthodologie qu'on ne cite pas, d'informations plus ou moins confidentielles. Et bien entendu, le plus courant, ça consiste à modifier un petit peu la méthodologie ou à modifier les résultats d'une étude sous la pression des sources de financement. Bon, moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de problèmes à publier une étude sur la mortalité autoroutière parce qu'effectivement, cette publication scientifique montrait que les autoroutes, la constitution des autoroutes en France avait un impact considérable, bien plus considérable que ce qu'on voulait. Alors on nous disait, oui, mais bon, les petits tritons, c'est pas la peine de les compter dans l'étude, on va parler que des grands vertébrés, pas des autres. Enfin. Mais ces pressions, on les sous-estime, hein, parce que les chercheurs eux-mêmes vont s'auto-censurer en diminuant l'impact de leurs propres travaux en fonction de ce qu'ils vont découvrir. Et puis, ils ont peur aussi de ne pas être dans la moyenne.
Sans compter que, juste un point, mais que toutes ces publications sont obligées d'être faites en anglais, alors qu'à côté, il y aurait des expressions de recherche qui pourraient se faire dans d'autres langues et qui a une le fait de savoir bien exprimer sa recherche en anglais est aussi un facteur qui est complexe.
Les Américains ne se réfèrent qu'à leur propre anglais à eux, qu'à leur propre manière de parler. Ils refusent d'ailleurs très souvent la lecture des publications, même faites en anglais, mais du moment que ce n'est pas par des chercheurs anglo-saxons, c'est très difficile de ne pas passer par ce biais-là. Il y a une étude allemande qui montre d'ailleurs à quel point les recherches sont sous-estimées dès qu'elles ne sont pas publiées par des gens qui sont associés aux Américains. Tous ces éléments ne sont donc pas des fraudes, mais des éléments de pression qui s'exercent avec la bibliographie aussi, qui est un élément de pression considérable. Une revue où un chercheur peut dire « Oh, ben, tu te limites à 30 textes », un chercheur peut dire plutôt que de lire 100 publis, je vais en lire 10, hein, ça ne sera pas plus mal, et je vais me référer à ce que les autres disent de la publie, ce qui fait qu'on recite toujours un petit peu la même chose.
La diversité des échanges, des discussions, elle est réduite.
Tout à fait, quand on voit certains chercheurs capables de publier des travaux d'écologie, faire 10 publications dans l'année, on peut s'interroger sur quel staff ils ont derrière eux, quoi, et comment ils fonctionnent pour avoir un tel recul. Donc, dans certaines matières, on puisse beaucoup publier, c'est vrai, mais dans la plupart des matières scientifiques où il faut élaborer un travail expérimental, on ne peut pas publier 500 textes par an, quoi. Il faut évidemment pouvoir montrer la validité du travail, travailler lentement, les données sont obtenues parfois au bout de 10 ans.
Voilà, et le nombre de données, notamment en écologie, on peut reprocher aussi des fois de ne pas avoir suffisamment de données.
C'est vrai aussi que le nombre d'individus peut être très faible. Il faut bien voir qu'en science, on est toujours confronté à ça. Si on augmente le nombre de données, on va augmenter la superficie de l'échantillonnage, et du coup, évidemment, les données vont avoir d'autres paramètres internes qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut ajouter à tous ces problèmes techniques des véritables problèmes de népotisme, des véritables problèmes d'usage de privilèges pour favoriser ses proches. C'est une pratique qui est devenue très très courante dans les laboratoires. On constate un copinage à tous les étages des institutions, mais également, bien sûr, des grands laboratoires. Pour cela, il suffit, en règle générale, de désigner des postes en fonction de la personnalité qu'on veut. On va créer un profil de poste qui est tellement étroit que seulement le petit copain peut avoir le poste.
La personne va pouvoir postuler.
Alors, et on ne tient pas compte de la qualité des travaux qui sont faits. Et la personne, après, elle se monte la tête en pensant qu'elle est de haute qualité parce qu'elle a réussi cela. Et dans les revues, ça fonctionne un peu pareil. Le népotisme favorise les proches, favorise tout un ensemble de personnalités. Ce qui explique aussi pourquoi ce sont les grandes universités américaines qui sont souvent les plus porteuses dans le monde. Dans le classement de Shanghai, par exemple, les 20 premières universités du monde, 17 sont américaines. Il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est un népotisme caché, notamment grâce aux anciens élèves. On peut parler de réseau, oui, on peut parler d'une influence des réseaux, des influences des anciens élèves, mais évidemment, c'est des mots pour parler d'un népotisme tout à fait fréquent.
On pourrait résumer pourquoi les universités américaines sont-elles aussi remarquables et pourquoi, quelque part, l'université d'Harvard est-elle systématiquement en tête de liste ?
Oui, alors qu'on sait très bien qu'il faut des siècles pour qu'une université puisse atteindre une réputation mondiale, il y a un véritable problème qui se pose. Alors en fait, très souvent, on pense que c'est parce que les Américains ont accueilli beaucoup de chercheurs éminents, beaucoup d'étrangers, que Einstein est venu chez eux et tout. Mais on oublie que cette explication est en fait une explication qui se reproduit elle-même. Car dans la réalité, les universités américaines sont férocement concurrentielles et c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que Albert Einstein n'est pas venu à Princeton parce qu'il a rendu célèbre Princeton en venant. Non, c'est parce que l'université était déjà célèbre qu'il a été accueilli là. C'est parce que l'université lui avait déjà offert un doctorat honoris causa, comme on dit, qu'il a eu envie d'y venir. Et puis parce qu'effectivement, il y avait déjà été invité plusieurs fois. Donc on va retrouver ainsi un monopole de certaines universités, quelque sorte, avec des petits arrangements avec d'autres personnes. Donc du coup, on voit que le facteur clé de la qualité des universités et du classement de Shanghai est peut-être davantage dans le népotisme, dans le fait de privilégier ses petits copains, que dans d'autres facteurs. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'intérêt financier qui est loin d'être négligeable dans ces éléments.
Oui, la force de l'argent n'est pas négligeable.
Oui, ça serait naïf de croire que l'argent est un facteur qui n'est pas inhérent à la fraude. Il favorise évidemment tout un ensemble de personnes, et les personnes favorisées par leur argent auront les moyens d'aller plus loin de tous les financements qu'il faut pour pouvoir faire des recherches. En tout cas, il faut bien comprendre que les 19 meilleures universités américaines sont d'abord entre les mains de gens qui, effectivement, ont favorisé la reproduction de leurs propres éléments, de leurs propres travaux. Ce n'est pas une malhonnêteté, c'est un principe de fonctionnement qui favorise en effet certains au détriment des autres, et donc certaines recherches au détriment des autres. Bien sûr, toute la recherche scientifique n'est pas aussi noire que cela. Il y a des vrais chercheurs qui courent après la vérité, mais il faut reconnaître qu'au milieu de tous ces vrais chercheurs, il existe quand même une vaste matière sombre.
C'était un extrait de l'opéra Carmen de Bizet.
Nous voilà à la conclusion de cette émission où l'on voit ainsi qu'au milieu du sérieux et du rigoureux peut se glisser du fantasque, du grotesque, voire de l'inquiétant. La fraude scientifique s'inscrit dans la recherche comme le ver dans le fruit, parce que l'humain est aussi celui qui veut gagner, réussir dans cette compétition ouverte. Mais si la fraude existe, elle est presque toujours découverte et le fraudeur presque toujours connu, démontrant combien le processus scientifique est capable de gérer sa grande délinquance, et cela sans État central, sans police, juste en lisant et en se parlant ensemble. C'est déjà étonnant, quand on y réfléchit qu'à un niveau mondial, les chercheurs soient capables de se corriger, de s'instruire ou même de se punir pour effectuer des travaux qui, au bout du compte, rapportent si peu et assez rarement, en tout cas la considération de leurs propres contemporains. Cependant, les pressions marchandes s'exerçant de plus en plus fortement, la petite délinquance, les mesquineries, les dénigrements, les oublis de citation continuent de faire ses ravages, d'autant que les recrutements restent toujours fondés sur des critères, sinon ésotériques, au moins plutocrates. Car il faut bien sûr briller sans éblouir les autres. Il ne s'agit pas de brebis égarées dans le monde de la recherche, non. Cela sont des imposteurs. Il faut donc espérer qu'on soit de moins en moins tolérant envers ces pratiques indignes qui prétendent faire avancer la vérité à partir de petits mensonges. Car non, je ne pense pas qu'on puisse être un génie scientifique et un salaud en même temps, qu'on puisse expérimenter des balivernes, mentir en son entourage et rester un chercheur intègre et compétent. Il faut donc traquer et faire la publicité de tout ce qui s'aventure sur le terrain des tricheries, car la science ne peut être qu'universelle. Et au-delà des publications scientifiques, la science appartient à l'humanité entière.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter en écrivant sur l'email sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur « Oyez, camarades !» des Sales Majestés dans l'album « Ni Dieu, ni Maître ».
Pour aller au travail, même si je gagne rien, même si je gagne que là, c'est la faute au patron, c'est salaud, c'est cochon, qui refuse de partager le pognon. Voyez les camarades, des petits les sans gras, on garde les bourgeois comme ils sont gros et gras. Voyez les camarades, des petits les sans gras, on garde les élites comme elles se moquent.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui est le deuxième lundi du mois, 19h30, et c'est l'autre voix de l'Amérique, Philippe Diaz au micro de Los Angeles. Ce soir, la première partie sera consacrée comme d'habitude aux nouvelles de l'enfer états-unien, des guerres menées avec Israël, l'allié toujours pour le contrôle du Moyen-Orient, et aussi de l'expansion de la vision trumpiste au reste du monde. Pour le reste de l'émission, notre invité sera Olivier Mannoni, que je vais vous présenter dans un moment. Tout d'abord, les différentes guerres d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient, en commençant par la Palestine. À Gaza, les bombardements se poursuivent. Au moins une personne a été tuée et plus d'une douzaine d'autres blessées lors d'une frappe israélienne ayant détruit une mosquée, entourée de tentes de familles palestiniennes déplacées. Les images vidéo montrent des avions israéliens frappant la mosquée Al-Mutakin dans la ville de Gaza, mardi, provoquant une puissante explosion. 60 Palestiniens libérés des prisons israéliennes sont rentrés à Gaza en présentant des signes de blessures graves et de malnutrition, certains étant si affaiblis qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ces hommes avaient été détenus dans les prisons israéliennes les plus tristement célèbres, Ofer, Negev et Sdeh Teman, où beaucoup ont passé plus d'un an. Ils ont fait état de passages à tabac brutaux et d'autres formes de torture infligées par des soldats israéliens. L'armée israélienne a d'ailleurs confirmé qu'une photo virale montrant un Palestinien à moitié nu et les yeux bandés attachés à une barre de fer est authentique. La photo a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, des groupes de défense des droits affirmant que l'image corrobore des années de témoignages sur la torture dans les centres de détention israéliens à Gaza. À Gaza, d'immenses tranchées creusées par Tsahal réduisent encore un peu plus l'espace laissé aux Palestiniens. Des images satellites permettent de suivre l'avancement des travaux réalisés par l'armée israélienne sur près de 80% de la nouvelle ligne jaune, repoussant les Palestiniens sur 43% seulement de l'enclave. Les attaques d'Israël contre Gaza témoignent d'une volonté d'anéantir délibérément des enfants, un acte qui devrait être sanctionné, a déclaré le président d'une commission de l'ONU ayant enquêté sur ces exactions. La violence déchaînée par les forces israéliennes était, je cite, « injustifiée et disproportionnée dans des proportions considérables », a affirmé le juge Muralidar, président de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé. Je cite encore, « Le prétexte selon lequel Hamas utiliserait des hôpitaux et des écoles comme base pour mener ses attaques ne saurait justifier la destruction totale de 97% des écoles de Gaza », a-t-il déclaré. Soulignant une tendance aux attaques ciblées contre les enfants, il a déclaré, « Lorsque l'on tire une balle dans la tête d'un bébé de 10 jours alors qu'il est au sein de sa mère, on ne peut en aucun cas qualifier ce bébé d'ennemi de l'État d'Israël, ni justifier de telles attaques. Les quadricoptères israéliens équipés de caméras thermiques sont capables de distinguer clairement un enfant d'un adulte », a-t-il précisé. Le fait que les enfants aient été spécifiquement visés ressort clairement du nombre de, je cite, « cas de bébés présentant des blessures par balle à la tête et au cou, infligées pour causer un maximum de dégâts », fin de citation. Il a ajouté que les bébés étaient visés par de minuscules projectiles cubiques qui se dispersent comme des sous-munitions et détruisent tous les organes internes. Il a relevé que des soldats israéliens avaient raconté à la télévision comment ils prenaient des enfants pour cible à l'aide de quadricoptères, affirmant que leur commandant les fait